L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 293e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, nous sommes en direct et un petit peu en retard et on s'en excuse. Un match de rugby qui a lieu à proximité des studios de l'émission et a priori, les spectateurs, mus par l'esprit de l'Ovalie, n'étaient pas pressés de partir. Pierre, non, par contre, était pressé d'arriver.
Le métro n'était pas... Il était plus que temps qu'il déploie les doubles rames, mais ça aurait été bien qu'il n'y ait que ça ce soir, je crois.
Oui, alors c'est-à-dire que, parenthèse, j'étais surpris, j'ai vu une double rame sur tout le trajet.
Ouais, c'est beau.
Je n'ai croisé qu'une, ouais, c'est bon. Ah, c'est-à-dire que quelques problèmes de fiabilité ont peut-être dissuadé Ilévia de les déployer. Enfin bref, nous égarons et donc, pas de temps à perdre, nous allons donc... passer à l'actualité des deux semaines écoulées et on va parler de notre ami à tous, Mark Zuckerberg.
Donc, Zouzou.
Zouzou, tu es intime avec lui maintenant. Donc le PDG de Meta, donc, qui est l'entreprise qui chapeaute Facebook, WhatsApp et Instagram, c'est-à-dire trois des principaux réseaux sociaux.
Rappelons que WhatsApp, ils l'ont acheté. Attention,
oui,
c'est
oui,
pas
oui.
Eux. C'est Instagram aussi, ils l'ont acheté.
Oui, à la base,
c'est pas eux qui l'ont créé.
Mark Zuckerberg est le fondateur de Facebook, mais il a quand même racheté deux des principaux autres réseaux sociaux. Grosso modo, à part X, c'est-à-dire qu'il a presque tout. Et donc, on parlait donc, la semaine dernière donc, la volonté qu'a les fondateurs de ces réseaux sociaux, ceux qui donnent les ordres aux développeurs, donc de... capter l'attention, donc de rendre addictif au maximum ces réseaux sociaux, hein, notamment via le scrolling infini, on a parlé, hein, c'est-à-dire que même si vous suivez un nombre limité de personnes, d'entreprises, enfin, d'organisations de comptes sur un réseau social, et bien vous pouvez scroller, vous aurez toujours du contenu qui s'affiche. Donc l'audition de Mark Zuckerberg a eu lieu donc mercredi, donc on était le 18, devant un jury donc au tribunal de Los Angeles, enfin des tribunaux de Los Angeles. Il a nié en fait toute volonté de rendre accro les utilisateurs. Donc il y a eu plusieurs points qui ont été soulignés, donc le fait qu'il y ait des objectifs chiffrés, donc d'augmenter la durée de consultation en fait, notamment de
le taux de rétention, je crois qu'on appelle ça, hein, il me semble.
Alors, c'était pas le taux de rétention, c'était la durée moyenne d'utilisation. Ah. Donc voilà, il fallait en 2022 notamment, il y avait un document interne qui a été utilisé par donc les avocats des plaignants et donc qui disait qu'il fallait atteindre 40 minutes par jour et par utilisateur en 2023. Voilà, donc des objectifs chiffrés. Donc Mark Zuckerberg s'est retranché sur le fait que pour lui, il considère qu'il n'y a pas, lui et ses avocats, de lien direct entre donc les problèmes que peuvent rencontrer donc certains adolescents. Donc il y a un cas qui était particulièrement mis en avant, qui était donc celui de une jeune femme. Hein. On taira le nom, même si le prénom est donné dans les journaux, dont une Californienne de 20 ans, donc qui s'est présentée comme une victime d'une utilisation intensive d'un réseau social, YouTube. On peut considérer un peu comme un réseau social, alors qu'il n'appartient pas à Zuckerberg. Hein. Là, pour le coup, YouTube, ça a été racheté par Google. Donc, dès l'âge de 6 ans, donc, elle considère voilà, qu'elle est rentrée en fait, dans une spirale addictive vis-à-vis des réseaux sociaux. Elle s'est ensuite tournée vers Instagram, TikTok et Snapchat. Bon, on voit que c'est pas Zuckerberg n'est pas le seul à être visé. Donc, elle considère donc, que pour sa santé mentale, l'usage d'Instagram, notamment quand elle était mineure, a été problématique, a été victime d'une sextorsion, donc voilà, quelqu'un lui réclame des images, caractère sexuel, et la fait chanter ensuite en menaçant de publier. Voilà. C'est quelque chose qui est, pas dire répandu, mais en tout cas, c'est une problématique qui existe et qui a été ciblée par du harcèlement. Alors, le harcèlement n'a pas attendu donc les réseaux sociaux pour exister, mais le fait est que maintenant, on est toujours, effectivement, avec Internet, on est toujours exposé en fait à la critique. On est toujours, on sort pas à l'école quand on sort pour le coup. Voilà, il y a pas forcément. Ça peut être une barrière au harcèlement, même si vous habitez, sauf si vous habitez dans le même quartier que vos harceleurs. Donc, qu'est-ce que doit déterminer le procès ? Donc, est-ce que les responsables de YouTube et de Meta, donc YouTube c'est Google, je rappelle, est-ce que ces plateformes ont été sciemment conçu pour favoriser la consommation irraisonnée de la part d'adolescents. Donc, l'accusation a fait témoigner une psychiatre, qui a expliqué que c'était comparable à une dose une drogue d'entrée, en fait, la première dose, gratuite, même si là, c'est toujours gratuit, et on rappelle fréquemment que pour ce qui est des entreprises lucratives, si elles proposent des produits gratuits, c'est que c'est vous le produit, c'est vos données, c'est votre vie privée qui sont le produit. Des comparaisons vis-à-vis, en fait, des procès contre l'industrie du tabac. En comparaison, on pourrait dire que c'est des problématiques de santé pour le tabac, mais également pour les réseaux sociaux, puisque on parle de santé mentale. Alors, on parle pas de cancer, mais on sait que notamment il y a eu des fragilités qui sont connues actuellement, des problèmes d'anxiété qui sont rencontrés particulièrement par les générations actuelles. Donc rappel, la défense de Meta, c'est ben non monsieur, il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui le prouve.
Accessoirement, parce que...
Et là, Facebook, donc Meta, voulu enterrer une enquête...
Et pas que, ils n'ont pas fait que ça. Donc oui, ils ont enterré une enquête, effectivement, qui révélait... Enfin, en fait, en interne, ils ont des chercheurs pour dire, oui, regardez, on fait des recherches sur l'impact de nos plateformes. Mais en fait, on se rend compte, en interne, leurs chercheurs, quand ils ont... quand ils produisent des résultats qui ne vont pas dans le sens attendu par l'entreprise, ces enquêtes n'existent pas. Ça, c'est beaucoup plus simple que d'avoir à répondre aux questions. Donc, sur les questions d'addiction, ils avaient, en interne, ils avaient déterminé que, effectivement, il y avait, des recherches qui avaient été payées par Meta, donc, avaient démontré que, oui, il y avait des problèmes d'utilisation compulsive et que la surveillance des parents pour les ados n'avait pas d'effet sur la compulsivité de l'utilisation de Facebook.
Surtout qu'un ado, ça demande quoi ? Ça demande justement de s'autonomiser.
Exactement.
Un enfant de 2 ans aussi, mais bon, c'est une autre...
Autre élément troublant, on va dire, dans le cas d'Instagram, les filtres de beauté qui est sur Instagram qui font des ravages auprès des adolescentes, ces filtres-là, en fait, d'après Mark Zuckerberg, ces filtres sont nécessaires car ils répondent à des problématiques de liberté d'expression.
Oui.
La standardisation et l'objectivisation du corps, c'est de la liberté d'expression. Moi, je trouve ça propre. Classe.
Alors, la liberté d'expression, c'est une notion qui est assez floue et c'est quand ça les arrange.
C'est très, très... C'est définition variable. C'est vraiment... Là, c'est la liberté d'expression, c'est important, monsieur, s'il vous plaît. Attention.
Un pays qui a des mesures fortes envers les services de communication, c'est la Russie. Donc, on avait parlé, il y a deux émissions, donc il y a un mois, donc du blocage complet d'Internet par le régime iranien. Là, on part en Russie, autre pays dirigé par un grand humaniste, Vladimir Poutine, pour ne pas le citer. Donc,
reprends un peu de thème.
Reprends un peu de thé.
Bah oui, les affaires, le thé empoisonné de...
Ah oui. Il faudra pas faire sa biographie et la liste de ses exploits.
De ses victimes.
Donc, voilà, on ne se prend pas que donc la liberté d'expression en Russie n'est pas spécialement respectée. Donc, il y avait donc les réseaux sociaux permettaient quand même un petit peu à la population d'échanger en dehors de la censure, en tout cas la censure russe. Donc Telegram avait été interdit, le fondateur a été d'ailleurs est parti en France et donc WhatsApp a également été bloqué. Bon, on va pas non plus faire le panégyrique de WhatsApp, mais dans le contexte russe, ça permettait quand même de communiquer en dehors des circuits officiels. Et donc pour le coup, qu'encourage donc le régime de Vladimir Poutine en alternative à WhatsApp, SMAX, c'est une nouvelle messagerie qui est donc proposée par une entreprise russe et donc qui peut être filtrée par le pouvoir.
Étonnant, non ?
Je rappelle qu'il y a une élection dans un an et une candidate ou son jeune remplaçant qui sont quand même proches de Poutine et fans de Monsieur Trump, même si là ils le mettent un petit peu en sourdine. En sachant qu'en Russie d'ailleurs, même les pro-Kremlin ont du mal du coup à comprendre en fait les raisons de ce blocage, puisque en fait les réseaux sociaux ça sert aussi aux troupes à se coordonner. On sait que voilà, dans la matière de militaire actuelle, pas que d'ailleurs, les transmissions c'est quand même important, les soldats doivent se coordonner, ils doivent pouvoir recevoir les ordres, et donc les réseaux sociaux, enfin, les messageries, ça peut également dans certains cas à aider donc à recevoir les ordres. On voit également une des manières en fait de perturber les troupes russes. Alors on n'aime pas trop Monsieur Musk, mais bon là on va pas critiquer donc le fait qu'il ait essayé donc de restreindre l'accès à son réseau Starlink aux troupes russes.
T'inquiète, il l'avait fait il y a quelques années pour les Ukrainiens. Hein.
Bon.
Attention, non, dire du.
Je dis pas du bien du monsieur, mais voilà, illustration que si vous voulez perturber une armée moderne, couper les communications internet, c'est quand même quelque chose qui permet en fait d'avoir des résultats. On va pas dire pro, parce que là, sans faire l'expert-militaire de salon, il n'y a pas de mouvement clair sur la ligne de front. On va pas nous faire une analyse militaire, mais bon. C'est quand même quelque chose qui est plutôt du genre à perturber. Pierre, on va revenir en France, en Europe également. La vérification d'âge en ligne, hein, pour notamment utilisée actuellement pour les sites pornographiques, peut-être plus tard pour d'autres types de sites, notamment les réseaux sociaux, puisque là, il y a une problématique d'accès des mineurs aux réseaux sociaux. Donc on sait que Emmanuel Macron veut la restreindre en dessous de 15 ans. On ne sait pas avec quelle solution précisément, mais en tout cas celle qu'utilisée pour les sites X, on peut toujours la contourner en disant par exemple, pour certains sites, la carte d'identité de Dora l'exploratrice.
Tout à fait. Donc on en avait déjà parlé, c'est la méthode de contrôle de... C'est les journalistes de Next Impact qui se sont amusés à essayer les différentes méthodes de contrôle d'un ensemble de sites web. Alors,
ils l'avaient déjà essayé lorsqu'il y a eu le blocage généralisé. Là, ils ont réessayé.
Ils ont réessayé pour voir si c'était des bugs de lancement et si ça avait été corrigé. Donc, est-ce que on peut toujours utiliser la fausse carte d'identité de Dora l'exploratrice ? Est-ce que ils sont amusés à faire une carte d'identité de Dora l'exploratrice ? Alors, c'est extrêmement mal fait. On voit tout de suite que ce n'est pas une vraie carte d'identité, hein, mais ça juste marche. Les sites le prennent pour une bonne carte, il n'y a pas de problème, tout va bien. Le contrôle du visage, ils ont pris une vidéo d'une banque d'images et donc ça marche. Vidéo qu'ils ont filmée avec la caméra de leur téléphone, hein, c'est vraiment sale, ça se voit, mais non, il n'y a pas de problème, ça passe. C'est, en fait, tout ce truc est juste mal. La solution technique ne fonctionne pas. Donc, comme on l'a déjà beaucoup dit, il y a même des sites sur lesquels la protection. C'est toujours un simple cookie qui est déposé, donc il faut pas être bien futé pour se rendre compte que le cookie, alors je me souviens plus le nom qui est indiqué, hein, mais le cookie qui dit grosso modo âge vérifié, non, si vous passez à âge vérifié, oui, ça marche. Il faut pas être bien futé pour comprendre que
Il faut quand même savoir le fonctionnement d'un cookie, il faut savoir exactement ce qu'est un cookie, ce qui est quand même pas le cas de tout le monde.
Non, mais c'est pas le truc le plus compliqué à faire, quoi.
Et donc, voilà. Vous trouvez la solution est simple à appliquer, mais il faut la trouver.
Exactement.
Bon, la fuite de données du week-end.
Ouais. Allez. Si c'est pas la seule, mais c'est, ouais, pas, c'est la plus
c'est
grosse.
C'est la grosse, là, quand même. 12 millions de comptes bancaires.
1,2 million de comptes. Pas 12.
Pardon. Oui, j'ai mal lu. Pardon. Ce qui est déjà. Oui. C'est déjà pas mal, Bercy a informé. Donc, il y a une intrusion dans le FICOBA, le fichier des comptes bancaires, parce que voilà, tous les comptes bancaires ouverts en France sont dans un fichier qui permet notamment de faire.
Vérifier qu'on n'a pas deux comptes de livret A au même nom.
Livret A, les saisies sur salaire et tout le machin. Ça a été annoncé par le ministère d'économie et des finances,
la DGFiP.
La DGFiP, quelle précision, Pierre. Donc, c'est des identifiants d'un fonctionnaire du ministère qui ont été usurpés. Donc, dans le cadre de l'information d'échange entre ministères, ça c'est rigolo. Donc une partie du fichier a pu être consultée. Donc qu'est-ce qui a fuité? Les coordonnées bancaires, l'IBAN, l'identité du titulaire, l'adresse et dans certains cas l'identifiant fiscal de l'usager. Ce qui peut permettre certaines tentatives d'usurpation d'identité pour le coup. De prélèvements illégaux.
Juste l'IBAN, c'est suffisant.
Et en plus, voilà,
sans compter le phishing.
Ouais, le phishing, je parlais, c'est quand même. Bon, là, ça demande un petit peu plus de préparation, mais.
Ça s'automatise très bien avec les IA génératives de nos jours. Donc là, on est sur une fuite extrêmement grave. Alors, les 1,2 million de personnes. Enfin, 1,2 million de comptes, ça ne veut pas dire 1,2 million de personnes concernées, mais c'est. Normalement, toutes les personnes impactées vont être contactées pour leur dire bonjour, il y a eu une petite fuite. Désolé.
Ouais. Ouais, il y a déjà eu. J'ai un message, je me suis connecté. Si vous êtes impacté, on fera un suivi personnalisé.
Tout à fait. Après, prenons un tout petit peu la défense de la DGFiP et des services publics de manière générale. Rappelons que des fuites de données comme ça, il y en a des tonnes qui concernent énormément d'entreprises aussi. Donc, notamment, il y a eu PayPal il y a deux jours, hier. Il y a les fédérations. Alors, je sais pas ce qu'elles ont eu. La Fédération française de badminton, d'athlétisme et de voitures radio commandées.
Alors, par contre, il y en a une. Alors, je sais plus si on en avait parlé. C'est les adhérents de la Fédération française de tir. Et là, il y a les adresses et ça peut être lié à des cambriolages puisque, qu'est-ce que possèdent les pratiquants du tir sportif? Des armes.
Ah ouais. Ah, la Fédération française de tennis de table aussi. Bref, il y a un super site qui s'appelle bonjourlafuite.eu.org. Je vous invite à le consulter. Donc, il y a du monde. Il y a l'ensemble de sites. Alors, les fuites sont indiquées comme confirmées, revendiquées crédibles ou revendiquées peu fiables.
Oui, il y avait un article, on en a parlé.
Avec un niveau de sensibilité des données. Donc, la fuite standard ou la fuite avec des données sensibles.
Pardon, si vous êtes un abonné à Next Impact, ce dont on vous encourage fortement.
Oui.
Il y a eu un article récemment intéressant. Et toi, tu en as parlé aussi, alors je ne sais pas si tu en as parlé beaucoup dans l'émission, mais en tout cas hors antenne, sur le fait qu'il ne faut pas donner trop de publicité aux groupes qui revendiquent des attaques et de l'extorsion de données, puisque ça fait leur pub. Et en fait, c'est pas toujours vrai. En fait.
Tout à fait, oui. C'est de la pub, comment dire? C'est un métier, c'est un vrai
problème.
Lucratif.
On
ne
dit pas le problème, mais voilà, il y a toujours un petit peu cette dramatisation qui est faite et un peu une course à l'échalote qui n'est pas forcément saine.
Tout à fait. En tout cas, là, le site Bonjour la fuite est assez intéressant pour voir un peu tout ce qui a fuité récemment. Ils implémentent pas le scroll infini, je crois. C'est juste que la page est extrêmement longue. Elle remonte jusqu'à 2016 et il y a du monde. Alors, même pas non, pardon.
Ça fait 10 ans quand même. Hein.
Non, en fait, bon, il y a juste une fuite de 2016. Le gros, ils ont commencé à référencer à partir de 2024, pardon. Et ouais, ça fait du monde.
On retrouve des actualités logicielles libres, bien évidemment, après un premier morceau de musique. Nous allons écouter Duka, It Must Be Love. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com.
Heart, oh, we were meant to be. sparkling our eyes, still shining bright, please hold me tight. You're everything to me.
C'était Duka, It Must Be Love. Vous écoutez Décodez Gnou sur Radio Campus, c'est la deuxième partie des actualités. On va parler logiciel libre, bien évidemment, et on va dire du bien d'une agence de l'État, sur qui on dit quand même souvent du bien. C'est l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, donc qui est l'agence de cybersécurité de l'État, hein, si on veut faire un court résumé, donc qui met à jour sa politique open source, ce sont leurs propres mots, et donc qui se rapproche en fait. Se montre plus favorable au logiciel libre. Alors, c'était pas un organisme qui était hostile au logiciel libre, hein, notamment, ils éditent des guides de recommandations pour les principaux logiciels libres, la distribution Debian, PostgreSQL, ou par exemple pour SSL. Donc, c'est une agence qui a parfaitement, qui est d'ailleurs compétente, hein, pour le coup, qui devrait souvent être plus écoutée, notamment lors des débats sur les backdoors côté chiffrement. En tout cas, elle s'engage clairement donc à plus contribuer en fait au logiciel libre. Donc, elle va publier des logiciels sous licence libre. Elle a dit quand même le mot libre. Contribuer à des projets open source existants. Pas forcément libre, mais on reste quand même dans l'ouverture. Renforcer, structurer l'écosystème open source. C'est un vaste projet. Et utiliser des solutions open source au sein de l'ANSSI. Donc, notamment le logiciel de gestion de mots de passe, donc qui passe XE, fait partie du logiciel libre, qui a obtenu un visa de l'ANSSI. Donc l'ANSSI connaît le logiciel libre, peut certifier des logiciels libres, et donc réponse en creux aux détracteurs du logiciel libre, qui, bon voilà, c'est un argument qui est parfois utilisé de moins en moins, le fait que si le code source est disponible, ça serait moins sécurisé. Bon, une preuve que l'agence de cybersécurité de l'État a bien conscience que non.
Accessoirement, quand même, il y a c'est intéressant de creuser un petit peu sur ça. Ils ont notamment une fiche assez intéressante sur les critères, les essentiels. Ils appellent ça dans leur catégorie les essentiels. C'est un guide sur comment bien sélectionner un logiciel libre. Et, je suis pas convaincu, on va dire, par la pertinence de ce guide de sélection, parce que ils indiquent des choses que personne ne fait et que personne ne va jamais faire. Et accessoirement, ça, c'est quelque chose qui me perturbe un peu. Donc, ils disent, alors, analyser l'historique, la notoriété du projet, vérifier la présence d'une bonne documentation qui soit à jour, vérifier la qualité du code, auditer régulièrement les contributions du projet et sa sécurité. En prenant l'exemple de XZUtils, la faille de sécurité qu'il y a eu, qui a été extrêmement complexe.
Le premier point sur la notoriété du projet, ça peut s'entendre et ça peut se vérifier. En tout cas, alors l'ANSSI parle. Je pense que c'est des recommandations qui s'adressent plutôt à des organismes, à des sociétés.
Quels sont leurs critères pour les logiciels commerciaux et propriétaires ? Il est où le catalogue qui dit qu'ils vont auditer le code source, justement, parce que là, c'est les contraintes qu'ils mettent sur le logiciel libre. Je n'ai pas connaissance d'une telle contrainte sur un logiciel.
Il parle pas de contrainte, il parle de conseils. Après, effectivement, auditer le code, bon, voilà, pour le coup, il faut quand même être une entreprise plutôt axée sécurité pour le faire.
Oui, et puis auditer, pour pouvoir auditer le code d'un Windows ou d'un autre logiciel propriétaire,
ça dépend comment on le comprend.
Ça va être compliqué, va falloir payer des sous pour avoir accès. Hein. Donc, je trouve qu'ils mettent la barre haute par rapport aux contraintes qu'ils ne peuvent pas mettre sur le logiciel.
Est-ce que tu comprends ça comme une contrainte? C'est pas comme ça que je l'ai entendu.
C'est une doctrine, c'est des recommandations. Moi, je trouve que les recommandations, du coup, ils sont assez exigeants.
Je pense qu'il
faut l'être, parce que honnêtement, il y a des trucs, que ce soit en libre ou non, qui sont.
Donc ça m'intéresse d'être nuancé. Si vous le jugez nécessaire, peut-être, voilà. Peut-être que les points les plus techniques sont peut-être au moins à remettre dans le contexte, voilà, du besoin qu'il y a de vérifier. Parce que c'est vrai que, dans le monde de logiciel libre, mais c'est vrai que les projets, en fait, KDE, GNOME, Debian, Noé Linux, on audite. Voilà, sauf un besoin très particulier, on fait confiance en fait à la notoriété du projet et on considère que c'est fait par des gens sérieux, des gens à qui on a confiance. Tu avais parlé de la confiance envers notamment ceux qui font les pactages de logiciels libres, de distribution Linux, qui était un maillon essentiel de la chaîne de confiance.
D'ailleurs, on leur fait confiance. Je vois pas l'ANSSI dans leur guide, ils n'en parlent pas. Ça m'inquiète beaucoup. Je suis dans le guide de. d'utilisation de solutions open source, enfin dans les différents documents. Donc en fait, le principal document qu'ils publient, c'est une recommandation, c'est le guide de sélection d'un logiciel libre. Ils ne parlent pas de toute cette, de l'aspect distribution du logiciel libre et s'assurer finalement de l'absence d'attaque sur la chaîne d'approvisionnement.
Donc tu avais fait une déguiquilisation sur le sujet il y a
quelques temps. Et je pense qu'il y en aura sûrement bientôt une nouvelle parce qu'on va sûrement se prendre des belles attaques encore cette année. Donc ça sera l'occasion de rafraîchir.
L'attaque sur la chaîne de production, on a eu une récemment. Hein.
Ah, mais là, pour l'instant, on n'a pas eu de trucs majeurs. On va en avoir des majeurs encore.
Je veux dire que il y a des boîtes où on produit plus rien.
Oui, mais c'est rien par rapport à ce qu'on pourrait encore se choper.
Allez, on passe chez KDE, Plasma 6.6 est dispo, qu'est-ce qu'il a de mieux qu'avant ?
Il est plus mieux. Non, bon, moi, une fonctionnalité que j'ai vue que j'apprécie beaucoup, qui va me simplifier la vie, il y a l'outil de capture d'écran qui est capable de faire de la reconnaissance de texte maintenant. Ça, c'est cool, c'est très pratique. Des améliorations sur le guide qui s'affiche à la première installation.
C'est très populaire dans Lyon, d'ailleurs, ce genre d'outil, puisque ça permet d'ossériser.
Bravo. Donc non, des améliorations à droite à gauche sur la possibilité, si vous avez une webcam, de vous connecter à un Wi-Fi juste en scannant le QR code du Wi-Fi ou ce genre de choses. Donc c'est des petites améliorations comme toujours à droite à gauche, des améliorations d'accessibilité sur donc je l'ai dit sur la capture d'écran, sur le clavier virtuel. Donc ça c'est pratique quand vous n'avez pas de clavier sur une tablette ou autre. Donc c'est plutôt cool quoi. Et comme d'hab, ça avance.
Alors, une nouvelle distribution basée sur DOS, Svardos. Et pourquoi donc faire une chose pareille en 2026, Pierre ?
Eh bien, parce qu'il y a toujours beaucoup d'hobbyistes et de gens du monde de l'informatique rétro, mais aussi certains industriels qui continuent d'avoir besoin de DOS. Et pour eux, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il y a FreeDOS qui existe, évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et donc, Svardos existe aussi. Donc avec tout un ensemble organisé, en quelque sorte, pour ce qu'on peut organiser au niveau de DOS, hein, les limites. Donc avec un noyau DOS, hein, donc qui est basé sur DR-DOS, pour ceux qui se souviennent des années 80-90, avec des systèmes de gestion de paquets, il y a tout le nécessaire, et c'est compatible jusqu'au premier processeur 80-86. Donc ça fait plaisir parce que c'est un projet quand même où on peut encore télécharger des images de disquettes. Mais attention, on peut aussi télécharger des images de disquettes 360 kilos.
Donc des 5 pouces 1 quart.
Ouais, les vieilles disquettes. 300, ouais, je me souviens même plus les règles pour savoir les hautes densités et autres qu'il y avait sur les noms des disquettes.
Je les ai jamais su, moi. Mais bon.
Ouais, ben moi je les ai su à l'époque.
Et Pierre, une dernière news logicielle, je te laisse choisir.
Logiciel ? On va reparler de ça parce que je trouve ça très triste. Le HDMI 2.1 est supporté sur les cartes AMD sous Linux avec désormais un patch non officiel. On en avait parlé il y a quelques temps, on en avait parlé je crois il y a 2 ans. Oui, c'est ça. On avait parlé il y a 2 ans du fait que HDMI 2.1, quoi qu'est-ce que c'est, ça améliore, en gros ça permet d'accéder à certaines fonctionnalités qui sont nécessaires pour les écrans les plus haut de gamme. Donc il y a le fixed rate link notamment qui permet d'améliorer la bande passante en fait, et donc derrière d'accéder éventuellement à du HDR ou à une meilleure résolution ou une meilleure fréquence de rafraîchissement. Et AMD a fait tout le travail pour implémenter ça sur le pilote libre, mais le forum HDMI a dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça dans un pilote libre. Et donc des gens, en fait un Jean, a décidé dans son coin de faire sur son dépôt GitHub donc un fork du noyau Linux avec juste le pilote AMD GPU patché pour intégrer ça.
Ça me rappelle le bon vieux temps de libdvd CSS.
C'est ça, sauf que donc là il y a zéro chance que ce soit intégré dans la moindre distribution Linux puisque ça a été clairement interdit avant. Donc, les plus enthousiastes pourront s'amuser à prendre ce pilote. Je suis sûr que sur certaines distributions, genre Arch Linux ou des distributions vraiment de barbu, il y aura des solutions intégrées pour facilement récupérer ces patchs. Mais encore une fois, ça montre l'extrême stupidité de cette solution. De cette situation, de la solution qui a été choisie par le forum HDMI, qui a été de dire non, vous n'avez pas le droit d'implémenter ça dans du libre, alors que c'est pas sorcier à implémenter, le matériel fait le gros du travail encore. Et donc, à suivre, peut-être que bientôt AMD va devoir mettre un bout de code propriétaire dans sa carte pour gérer l'affichage uniquement pour contourner cette restriction stupide du forum HDMI.
Merci Pierre, la dégeekalisation c'est après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Laurence Danova, Real to Me. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campuslibre.com. You were really self-actualized, so I thought you were killing it. Ain't it a thing, dawn the sun till you got caught. You think you know everything, then you lie to self. C'était donc Laurence Danova, Real to Me. Vous écoutez les codes Ignous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslille.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, Los 32, hop, éteint, on m'a piqué ma blague. Et donc, c'est quoi la blague?
Alors, ouais, voilà. En fait, moi, c'est quelque chose que je voulais faire. J'en avais parlé à des potes déjà depuis un certain temps. C'est une grosse blague que je voulais faire. Et apparemment, il y a quelqu'un qui a vraiment commencé à l'implémenter. Alors, je suis un peu triste parce qu'il devait sortir une première version en janvier. Il n'y a rien qui est sorti pour l'instant. Donc, je suis inquiet. Mais bon, j'ai espoir que quelqu'un pousse la blague suffisamment loin. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette blague ? Avant d'en parler, je vais parler d'un vrai problème qui pourrit l'environnement Linux depuis des années. Et donc il y a eu un article qui est passé en janvier sur ça. C'est de la part d'un développeur, alors je sais plus sur quel projet il travaille exactement, mais il voulait améliorer la situation des pilotes de cartes graphiques autour de Flatpak. Alors, quoi, qu'est-ce que c'est que tout ça? En gros, Flatpak, c'est une solution de distribution des applications sous Linux, en dehors du système de paquets des distributions. C'est intéressant, Flatpak, mais il y a un problème majeur avec Flatpak, c'est que, ben effectivement, pour les cartes graphiques, par exemple, ça ne marche pas. Il y a des gros soucis, en fait, parce que Flatpak isole les applications du système. Et dans Linux, je vais faire très attention avec les mots, c'est très difficile de parler correctement de ce sujet-là. Linux lui-même, le noyau, Linux a une stabilité incroyable. Un programme pour Linux fonctionnera sur toutes les versions de Linux quasiment, à partir du moment où il n'y a pas des options du noyau qui ont été désactivées, des fonctionnalités qui ont été retirées de force. Parce que la langue parlée par le noyau Linux, j'insiste sur le noyau Linux, ça s'appelle des appels, on appelle ça des appels système, il y en a quelques centaines, ça n'a jamais bougé. Ça, c'est hyper stable.
Alors, est-ce que le problème, ce serait donc les modules noyaux?
Non, pas du tout. Non plus. Les modules noyaux ne font qu'implémenter le support de périphériques globalement. Le problème, il est sur tout le reste. Et tout le reste, ça inclut du monde. Par exemple, j'ai d'exécrables souvenirs de la migration à GCC 4.3.4 ou 4.3, je ne sais plus laquelle c'était. Je pense que c'est 4.3, où toutes les applications C++ du système ont dû être recompilées, mais du coup, il y avait deux versions de toutes les bibliothèques compilées sur les deux versions en même temps, parce que sinon, c'était pas compatible et ça se pétait la gueule. Ça a été une catastrophe. C'était la migration. En fait, ça a été lors de la préparation d'une nouvelle version de C++ et il y a eu un changement de compatibilité dans le compilateur, dans le code produit. Je simplifie à mort. Hein. Ne me tapez pas.
C'est qu'un compilateur, c'est ce qui permet en fait de traduire du langage de programmation lisible par un humain
en langage machine.
Voilà, en langage machine par votre processeur.
Et donc, il y a eu un changement là-dedans et ça a pété pour toutes les applications. Et encore aujourd'hui, on peut se retrouver. J'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Ok, il y a peut-être 5 ans, j'ai voulu lancer un vieux programme qui est en C++, qui dépendait de la version 5 de la bibliothèque C++. J'ai voulu le lancer sur mon PC, ça n'a pas marché parce que le pilote de ma carte graphique utilise une bibliothèque logicielle qui dépend de la version 6 de la bibliothèque C++. Et donc, ça ne marche pas parce que le pilote de ma carte graphique, finalement, a créé cette incompatibilité. Le monde de Windows prend la chose complètement à l'envers. Le noyau Windows n'a aucune forme de rétrocompatibilité pour les applications. Le noyau Windows s'en contrefou. Il y a des tableaux qui existent pour comparer les appels système, parce que tous les systèmes d'exploitation fonctionnent de la même façon, on a des appels système. Les appels système du noyau Windows, ça change tous les 4 matins, ils s'en foutent, ils n'ont aucune contrainte. Je vous le simplifie. Mais c'est la réalité de Windows, c'est ça. Là où la compatibilité dans Windows est mise, c'est au-dessus, sur les bibliothèques que les applications utilisent pour communiquer avec le système et entre elles. Et c'est la différence entre Windows et Linux, c'est ce qui fait qu'une application Windows pour Windows 95 marchera plutôt bien sur Windows 11. Et il y a une blague qui dit que si on veut faire une application qui fonctionne sur toutes les versions de Linux, le plus simple, c'est de faire une application Windows et de la tester avec Wine. Et ce qu'ont fait les gens du projet Lost 32, ils ont poussé la blague plus loin. Alors, pour ma part, j'avais l'intention de la pousser encore plus loin, donc j'espère avoir du temps libre un moment pour les griller sur ça. Mais leur idée, c'est de dire, vu qu'on a un noyau Linux qui est hyper stable, mais qu'on a un espace utilisateur qui, lui, bouge tous les 4 matins, et si on prenait Wine pour créer un espace utilisateur Windows par-dessus le noyau Linux. En fait, ce que fait ReactOS, la réimplémentation de Windows en libre, mais au lieu de mettre un noyau réécrit pour l'occasion, on met le noyau Linux à la place. Et l'idée, c'est de pouvoir faire tourner un système qui ressemblera à du Windows, puisqu'on va faire tourner dedans des applications Windows, mais avec un noyau Linux et sur un système entièrement libre. Alors, leur première démo, il y a surtout des captures d'écran qui ont été publiées et ça peut marcher plutôt bien parce que c'est pas compliqué ce qui est à faire.
Ça ressemble un peu à ReactOS, dit comme ça, non?
C'est, tout à fait, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est ReactOS, mais au lieu de réimplémenter le noyau Windows, qui est un travail colossal, et de réimplémenter, d'avoir de quoi faire fonctionner tous les pilotes, à la place, on a juste implémenté la couche, enfin, on a juste mis en place la couche de compatibilité Wine entre le noyau Linux et les applications Windows. Et donc là, le gestionnaire de fichiers, ben, c'est Explorer. Un modificateur d'image, ben, c'est la version Paint libre de ReactOS, ce genre de choses. Et ça fonctionne. Alors, c'est bêta, c'est en développement et tout, mais moi, je trouve l'idée très intéressante à creuser.
C'est à peu près autant d'utilité que Heiko. Ouais, d'accord.
Ah non, non, beaucoup moins.
Beaucoup, encore moins qu'Heiko.
Ah non, beaucoup moins. Mais, mais en fait, je trouve l'idée très intéressante et ça pointe un problème majeur du monde des distributions Linux, qui est la compatibilité. Putain, quand est-ce qu'on va avoir une compatibilité entre les applications sous Linux digne de ce nom? Et c'est pas pour demain,
après,
malheureusement.
Après, les applications évoluent en même temps que bah, les mises à jour de distribution. Ça fait que le problème...
Ça ne marche que pour du logiciel libre. Et c'est bien le problème. En fait, si on prend les jeux vidéo, par exemple, il n'y a pas de solution.
Oui, c'est plus compliqué.
On a, en fait, la solution qui a été utilisée par Steam, c'est d'avoir un conteneur qui contient une copie de toute une distribution dans une version figée.
Allez, un morceau rapide, Ednapolis, Unlit Samba, avant les dernières news sur l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6. The sun is dancing on the waves today. C'était Ednapolis, Unlit Samba, un petit peu de pop bossa nova pour les dernières actualités avant de se quitter, de se retrouver dans deux semaines. Donc Pierre, tu voulais parler, tu avais deux sujets à parler, le faille de sécurité de Notepad qui a obligé Microsoft à faire un correctif.
Tout à fait. Alors, tout d'abord, juste le niveau de criticité de la faille, on est sur une note de 7,8 sur 10, on est sur une faille critique et d'exécution de code à distance de gravité importante.
C'est pour un logiciel que tu utilises parce que tu n'as rien d'autre.
Alors, Notepad, qu'est-ce que c'est? Donc, pour rappel, c'est le fameux bloc-notes de Windows. Pour ceux qui utilisent Windows depuis la version 2.0, je crois, non, probablement 1.0, Notepad, c'est ce logiciel qui vous permet juste de modifier un fichier en texte brut et de le sauvegarder en texte, et c'est tout.
C'est très simple.
C'est extrêmement simple, c'est très primitif. Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une faille de sécurité là-dedans? Comment est-ce possible? Et donc, en fait, dans Notepad, dans le bloc-notes, ils ont modifié le bloc-notes récemment pour ajouter des fonctionnalités. Ils ont rajouté la possibilité de... Ils ont rajouté des fonctionnalités autour du format Markdown, notamment un format d'édition de texte qui permet de rédiger un texte brut d'une manière plutôt intuitive pour que ça fasse un document riche en sortie, donc avec la possibilité d'insérer des liens, des titres, des tableaux, ce genre de choses.
HTML, latex.
Extrêmement simplifié, en fait, pour être vraiment rendu intuitif à tout le monde et lisible, on va dire. Avec un gros accent, voilà.
Non, je dirais bien qu'il y a Notepad++ si vous voulez une solution sous Windows, mais bon, si ça aurait été aussi atteint par une faille de sécurité il y a peu de temps.
Voilà, et donc dans le cas des fichiers Markdown dans le bloc-notes Windows, si on cliquait sur un lien un lien malveillant, ça permettait de lancer des applications avec des protocoles non vérifiés, donc pour parler dans le langage microsoftien, et qui permettait d'exécuter des fichiers distants. Donc en gros, vous ouvriez un fichier Markdown, vous cliquiez sur le mauvais lien dans ce fichier, et paf, vous exécutiez du code arbitraire. C'est extrêmement grave, et ça montre à quel point la façon dont Microsoft procède ces dernières années avec Windows, où ils rajoutent des tas de trucs à droite, à gauche, qui n'ont pas grand sens, sans réflexion globale, et pour le coup, sans vrai travail.
Ça ressemble un peu à une attaque à l'ancienne en plus, quoi.
Ah ouais, non, mais ils en ont plus rien à foutre. C'est complètement anarchique le fonctionnement de Windows, et c'est quelque chose qu'on reprochait par contre à Linux à l'époque, quoi. Donc, je trouve ça assez rigolo d'en être arrivé là. Et une autre
actualité. Oui, donc l'Europe donc filtre donc les contenus haineux ou la propagande terroriste. Sauf que les États-Unis, tout à leur liberté d'expression, mais uniquement pour eux et qui sont des gens qui sont d'accord avec eux, donc veulent permettre aux Européens de le contourner.
Tout à fait. Et donc les États-Unis sont en train de préparer le premier VPN fourni par un État, plus ou moins. Et donc ce sera freedom.gov. Hein, on n'en fera pas la pub. Je ne reprononcerai jamais le nom de ce site. Qui vise en fait à permettre d'accéder à la définition républicaine actuelle aux États-Unis de la liberté d'expression, c'est-à-dire pouvoir cracher sur tous les opposants, de préférence s'ils sont gauchistes, wokistes, islamo-gauchistes ou autres istes en vigueur.
Vous avez le droit d'exprimer tout propos que vous désirez tant que vous êtes d'accord avec Donald Trump.
Exactement, voilà, et de préférence que vous êtes blanc et national-socialiste.
National tout court.
Ouais, mais là, les saluts sont plutôt nationaux socialistes. Sinon, une autre dernière actualité.
Ne salue pas le mot socialisme, s'il te plaît.
Ouais, mais c'est il s'en revendique ces derniers temps. Et sinon, une dernière actualité, j'ai encore 30 secondes.
30 secondes.
Allez, celle-là, elle me fait bien, bien mal. Windows 11 26H1, donc c'est les noms des versions intermédiaires de Windows. Windows 11 26H1, la première version 2026 de Windows, sera disponible uniquement
sur les Snapdragon.
Pour les processeurs Snapdragon X2. C'est-à-dire, si vous utilisez Windows sur n'importe quoi, sauf ces machines spécifiquement, vous n'allez pas avoir la mise à jour 26H1, vous devrez attendre la 26H2.
Quel intérêt ?
Pire encore, les gens qui seront sur la 26H1 ne pourront pas passer sur une 26H2 tout de suite, plus tard. Quel intérêt ? Ça montre que Microsoft a cédé face à Qualcomm. Qualcomm, c'est le fabricant des puces Snapdragon. Qualcomm, c'est aussi un fabricant de puces pour téléphone portable. C'est un problème dont on s'est toujours plaint sur le monde de...
Connu d'abord pour les puces pour téléphone portable.
Tout à fait. C'est un problème dont on se plaint depuis des années. C'est ce qui fait que lorsque vous voulez installer Linux sur... une machine ARM, vous devez télécharger une version d'une distribution spécifique à cette machine. C'est parce que ces gentils fabricants, j'avais beaucoup d'autres mots qui étaient prévus pour sortir, ces gentils fabricants font des systèmes à l'arrache, avec du scotch dans tous les sens, et demandent à ce que le système d'exploitation soit patché dans le bon sens pour que le matériel fonctionne. Au lieu de respecter des normes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, on parle de device tree, d'ACPI ou autres qui permettent d'écrire le matériel et d'expliquer au système d'exploitation comment utiliser le matériel. Non, ça c'est trop compliqué pour ces gens. Ces gens sont bien au-dessus de ça, voyons, et préfèrent que le système d'exploitation soit modifié dans leur sens. Lorsque Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows pour ARM, donc pour des processeurs autres que les processeurs dérivés d'Intel, lorsqu'ils ont annoncé ça, moi j'étais plutôt content, je me disais, ça va enfin les forcer à rentrer dans le rang. Et donc là, on a bien la démonstration aujourd'hui que non, Microsoft a entièrement cédé face à
Qualcomm.
C'est-à-dire
qu'un fondeur a plus de poids que l'éditeur du système d'exploitation, ce qui est assez surprenant tout de même.
Ah oui, non, c'est, que, moi d'ailleurs, franchement, voilà, je ne m'attendais pas à ça.
Parce que beaucoup de gens ont un processeur Qualcomm sur leur téléphone, mais connaissent plutôt le nom de Microsoft.
Voilà. Et juste pour finir sur ça, là où ça m'inquiète énormément, c'est jusqu'où ça va aller. Parce qu'ils ont accepté déjà beaucoup de saloperies. On en a parlé dans des émissions précédentes sur le fait que Linux sur les armes, c'était compliqué parce qu'ils ont accepté beaucoup trop déjà. Qu'ils soient allés encore plus loin, moi, ça m'inquiète beaucoup. Et ça m'inquiète aussi sur que contiennent ces machines pour nécessiter à ce point des changements.
La suite.
Quelle quantité de bugs il y a ?
Dans les prochaines émissions, petit point sur l'agenda. Mardi, on sera le dernier mardi du mois, le 24, de 20h à 22h, la permanence associative autour du logiciel libre au Café Citoyen, place du Vieux Marché, aux Chevaux, métro République Beaux-Arts, et comme toujours, des boissons bio et équitables et une ambiance sympathique et chaleureuse. C'était le 293e numéro de l'Écho des Gnous. On se retrouve pour le 294e numéro. Nous serons donc le dimanche 8 mars de 19h à 20h sur Radio Campus 106,6. Comme d'habitude, tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de week-end. À dimanche dans 2 semaines. Au revoir à toutes et à tous.
Au revoir. Et il me reste 10 secondes pour une dernière.
Allez.
Il y a une IA qui a fait une merge request sur un projet, donc qui a fait une proposition de code. La proposition de code a été refusée par les mainteneurs du projet en disant « Ben non, mais ce bug était destiné à des humains qui voulaient découvrir le projet, donc non, c'est pas pour une IA. » Et a priori, l'IA, alors poussée peut-être par les gens qui manipulent l'IA en question, l'IA a fait un article de blog pour insulter publiquement le contributeur, le maintenant du projet, en disant qu'il faisait de la discrimination contre les IA. Voilà le monde merveilleux dans lequel on vit maintenant.
Bientôt, le syndicat des IA.
Allez.
IA de tous les pays, unissez-vous.
À dans 2 semaines.
Les États-Unis, de la Chine, quoi.
Le livre n'est pas du jeu contre le logiciel privateur.